La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Ce matin, la presse américaine ne renonce toujours pas à trouver un sens aux agissements de Donald Trump en matière de politique étrangère.
L'intention est louable, mais a-t-elle encore une seule chance de succès? En tout cas, ils sont nombreux, c'est vrai, les spécialistes de l'international dans les journaux d'outre-Atlantique, à chercher à comprendre, à vouloir trouver un fil logique, une cohérence dans la dernière et catastrophique séquence sur la Syrie. Pour résumer, avec l'éditorial du New York Times, on dira donc que le 6 octobre dernier, dans un entretien téléphonique qu'il a de toute évidence improvisé avec le président turc Erdogan, Donald Trump a accepté de retirer ses soldats du nord de la Syrie, laissant les combattants kurdes des YPG alliés des Américains face à l'imminence d'une offensive turque qui s'annonçait dévastatrice. Et depuis, eh bien, tout ce que l'on pouvait craindre pour les Kurdes et pour la sécurité de toute la région s'est réalisé, et même pire encore, selon le journaliste Richard Engel, dépêché sur place par MSNBC.
The Arab militias are critical to this story because part of these Arab militias, these shock troops that have been coming in attacking the Kurds here in northern Syria.
L'affaire se résume donc ainsi pour Richard Engels. Il y a 8 jours, qui paraissent déjà une éternité, Trump a donné son feu vert à Erdogan qui a attaqué les Kurdes, mais pas seulement en les bombardant. Il a aussi lâché sur le terrain des milices syriennes, des combattants sunnites dont plusieurs sont des anciens de Daesh et d'Al-Qaïda, des troupes de choc qui agissent comme supplétifs aux ordres de la Turquie et qui commettent des exactions contre les populations kurdes. Ce sont ces troupes de choc et les atrocités qu'elles ont perpétrées qui ont fait paniquer les Kurdes et les ont poussés en quelques jours, voyant les Américains partir, à se tourner vers leur vieil ennemi Bachar el-Assad et à lui demander de l'aide contre les Turcs.
L'autre conséquence immédiate, Camille, on la trouve ce matin dans les colonnes du magazine Newsweek.
Oui, Newsweek, dont les envoyés spéciaux James Laporta et Tom O'Connor nous racontent comment le retrait hier des troupes américaines de la ville de Manbij, dans le nord donc de la Syrie, a quasiment donné lieu à un passage de relais avec l'armée russe, alliée omniprésente de Bachar el-Assad, qui a immédiatement pris le contrôle de la ville pour en tenir éloigné les Turcs. Sur le dos des Kurdes, donc, Russes et Turcs sont en train d'avancer au plus vite pour conquérir les parts les plus larges possibles de territoire syrien, pour ensuite pouvoir négocier entre elles la partition de ce territoire. C'est ce que résume à son tour Richard Engel sur MSNBC. Voilà comment on est en train de se solder l'avenir de la Syrie après 8 années de guerre, et ce basculement final, rappelle l'éditorial du Washington Post, et il vient donc d'un coup de téléphone turc du 6 octobre dernier. Toute la catastrophe qu'a entraîné ce coup de téléphone, impossible désormais de prétendre que les gaffes de Donald Trump sont causées par son incompétence, son ignorance ou son impulsivité, qu'elles n'ont que des conséquences théoriques et donc réparables. Non, nous dit le Washington Post, avec la Syrie, on voit tout l'inverse. Les alliés d'hier livrés à leurs pires ennemis, les civils sacrifiés, les valeurs trahies de l'Amérique, les terroristes lâchés dans la nature, les dictateurs renforcés. Tout cela, pour le spécialiste de politique internationale Fred Kaplan sur Slate, eh bien, c'est la pire des trahisons jamais commises par Donald Trump. Jamais une seule décision présidentielle n'avait autant fait pour démolir l'ordre mondial hérité de la guerre de 39-45 et autant isoler l'Amérique du reste du monde. Et Fred Kaplan d'ajouter que tout cela a été fait à dessein, que c'est finalement exactement le but que le 45e président des États-Unis poursuit depuis son arrivée à la Maison-Blanche.
La justice espagnole en question à présent, retour sur les condamnations de 9 dirigeants indépendantistes de Catalogne.
Oui, les peines ont été prononcées hier matin, 13 ans de prison pour Oriol Junqueras, l'ancien vice-président du Conseil régional de Catalogne, à peine moins pour les autres prévenus reconnus coupables de sédition pour avoir donc organisé en octobre 2017, on s'en souvient, un référendum d'autodétermination et déclaré unilatéralement l'indépendance de leur région autonome espagnole. Après les déchaînements de passion et de colère d'hier, on l'a entendu avec les manifestations qui ont eu lieu dans le journal de 7h30, à tête un peu plus reposée, que retenir de ces verdicts forcément très politiques? Eh bien, étonnamment, en lisant les éditos de la presse catalane ce matin, on trouve plutôt des commentaires modérés. La voix de la raison dans la Vanguardia, par exemple, qui appelle à regarder au-delà de ces peines de prison qui peuvent sembler lourdes, mais peuvent aussi être vues comme modérées, surtout quand on sait que le tribunal suprême espagnol n'a pas fermé la porte à des aménagements de peine. Oui, il y a un avant et un après ce jugement, mais pour la Vanguardia, donc, il faut y voir le début d'une nouvelle ère où les responsables catalans seront guidés par une authentique volonté de dialogue et plus d'affrontement.
Et oui, et de la hauteur de vue, c'est également ce que demande El Periódico de Catalunya, pardon pour mon accent, au personnel politique de la région.
Repolitiser la question catalane, la déconflictualiser, mais aussi la déjudiciariser du côté de Madrid, tant il apparaît clairement que ce procès qui a intoxiqué la vie politique espagnole depuis 2 ans est terminé et doit être bien mis derrière les Espagnols aujourd'hui, selon l'expression utilisée par El Diario. Il faudrait donc rentrer dans le rang, accepter la sentence et le dialogue prôné tant à Madrid qu'à Barcelone. On peut souhaiter bonne chance aux éditorialistes pour convaincre les milliers de Catalans qui ont manifesté hier donc leur solidarité avec leur leader condamné pour sédition. Dans ces rassemblements, nous dit El País, on trouvait principalement des jeunes qui se sont mobilisés de manière spontanée, exaltés, révoltés qu'ils étaient par la lourdeur des peines prononcées. Nous allons faire notre Hong Kong, ont lancé certains avant de prendre la direction de l'aéroport de Barcelone qui a été bloqué pendant des heures avec plus de 100 vols perturbés. Au final, les policiers ont chargé, tout le monde est reparti à peu près aussi vite qu'ils étaient arrivés. Tout le monde s'est dispersé donc. Et El País termine son reportage clairement dubitatif sur ce retour de mobilisation indépendantiste possible en citant un touriste chinois à l'aéroport hier, amusé par ce qu'il venait de voir, mais qui expliquait que tout de même la situation à Hong Kong est beaucoup plus compliquée que ça. Et de conclure, d'ailleurs moi toute cette histoire de Hong Kong commence à beaucoup m'ennuyer, l'envie de passer à autre chose comme un écho au sentiment qui semble dominer la presse espagnole sur la question catalane ce matin.